J'ai perdu le contrôle. Je sais plus où je suis. Je te critique exquise. Avec Tommy Gallet et Jérémy Michel.
Salut tout le monde, bienvenue à Critique Exquise. Bonjour Tommy.
Salut Jérémy, allô!
Ça va bien?
Hey, moi, je vais quand même assez rock'n'roll.
Rock'n'roll?
Je vais rock'n'roll. J'ai vécu des gros moments cinématographiques depuis la dernière fois qu'on a enregistré. Et ça va me faire plaisir d'en parler cette semaine. Ben, cool.
Moi, je vois Goth, si je vais me couper les vendrettes là.
Ah ouais, hein?
Puis toi, c'est qui est là aujourd'hui? C'est Florence?
Oui, c'est moi, allô!
Florence Payette, bien entendu.
Oui, oui, comme d'habitude.
Toi aussi, t'as vécu des aventures cinématographiques.
Ah oui, moi aussi, j'ai vécu. Oui.
Oui, hein? Puis je pense qu'on peut peut-être annoncer quelque chose en commençant l'émission, parce que c'est volet critique en vrac aujourd'hui. On ne sait pas trop dans quoi ça va s'en aller. Je pense qu'on va parler un petit peu de Dans une galaxie près de chez vous, de Blasts. Parce que tu m'as conquis, mon cher. Et toi, Florence?
Je vais vous parler de Tchernobyl et de quelques nouvelles sorties estivales.
Oh, ça, j'aime ça. Et d'ailleurs, en commençant, je suis content de vous annoncer que notre collaborateur Milan, il a réussi à avoir des accréditations. Dis-le.
Oui, moi aussi.
Et voilà, donc on va avoir une équipe dépêchée. On sait que Bruno travaille déjà pour Fantasia en tant que placier, blabla. Ce n'est pas poétique qu'il vienne participer à un show et donner son opinion sur les films qu'il va voir selon l'emploi qu'il occupe présentement. Voilà, on va avoir du monde insider à Fantasia un petit peu tout le long de l'édition cette année pour vous faire des shows extra, des affaires spéciales. Moi puis Jérémy, on va plus être en retrait. On va voir qui c'est qui mérite de l'avoine dans vous trois, là. Ouais, hein? Ouais. Les moulés pis tout. Mais toi, tu vas-tu aller faire un tour?
Non, j'ai vraiment ça à la Fantasia.
Ah ouais? Hein?
J'espère qu'ils nous écoutent pas,
ça. Ah, c'est ça. Non, mais en même temps, ça peut ne pas être pour tout le monde. Puis c'est pour ça qu'on a un show avec des gens d'intérêts variés.
Ouais. Bon. J'aime écouter les films. J'ai trop de monde, puis c'est trop... Tout le monde sont trop hypés, tout le monde crie pour tout, là, puis je suis pas capable.
C'est vrai.
Okay. Voilà. C'est vrai que c'est une ambiance particulière, Fantasia.
C'est une ambiance.
Le monde, ils sont déjà un petit peu public vendu d'avance.
Ah ça, oui.
Voilà. Moi, j'aime ça, mais bon, là, le travail veut pas cette année. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, cette édition de Fantasia? As-tu déjà des affaires qui te tentent?
Pour moi, c'est une surprise quasi totale. Il y a un nouveau film avec Elijah Wood qui me tenterait et le volet animation qui me tente un peu plus cette année. Mais sinon, j'attends que le catalogue sorte, qui va sortir très bientôt, pour prendre un bon bain de ça. Là.
Et voilà, si je me fie à Marc Lamotte, ça va être 388 pages de long, incluant la couverture. C'est quand même un sacré gros programme, ça.
Que oui. Je vais passer de la couverture jusqu'à l'autre couverture.
Et peut-être qu'on peut mentionner, toi, tu avais participé à Fantasia l'année passée. Ton nom était dans le programme l'année passée.
Oui, justement, avec douteux.org. Qui est un organisme qui est là tous les lundis, hein, je le rappelle. Ou Brewpub, Brouhaha. Et on a présenter un petit pot pourri de set de VJ à Fantasia l'année dernière et c'était extraordinaire.
Ouais, vraiment, merci beaucoup de ta participation. C'était une initiative qui a été amorcée, il faut le rappeler, par notre bon pote Rémi Fréchette, un gars qui connaît son schnitzel et ça va bien lui ses affaires cette année en fait. J'aimerais ça l'avoir un moment donné ici pour peut-être une entrevue, parler d'autres choses ou du reste. Jérémy,
ouais.
Toi, ces temps-ci, tu me dis que sur Amazon Prime, tu cherches des films, là, je fais des guillemets, pourris.
Ouais, c'est ça, parce que j'écoute des bons films avec ma blonde. Puis là, à un moment donné, vers 2h du matin, elle va s'endormir, tu sais, parce qu'elle est une personne normale. Moi, je suis insomniaque, tu sais. Puis là, c'est ces moments-là que je veux trouver de la merde, parce que je veux pas écouter, tu sais, de quoi de magique sans elle, tu sais. Je veux pas me retaper le même film. Fait que j'essaie de trouver des vieux films d'action des années 90 ou 80.
Quelle noble quête.
Ouais, qui semble que j'ai jamais vu un, c'est dur à trouver, mais vont être assez entertaining et mauvais en même temps.
Et Amazon Prime est rendu une bonne source de ça.
Ouais, j'en trouve pas vraiment sur Netflix. Netflix, ils ont plus comme des films d'horreur, straight to video récents.
Exact.
Ils n'ont pas beaucoup de films d'action ou des films d'arts martiaux. Mais Amazon, ils en ont quand même assez. Surtout si tu te connectes à un VPN puis tu vas sur Amazon Prime US.
Clin d'œil, clin d'œil.
Oui, OK, ouais, je comprends. Avec ça, tu peux avoir comme tous les pays.
Ouais, mais ils sont vraiment forts sur en train de bloquer tout ça. Là. Ça vient vraiment chiant, Amazon. Tu payes pour le service, mais tu n'as pas le droit d'écouter le service ailleurs, mais tu payes déjà pour.
Ouais, je trouve ça très weird, moi aussi, cette manière-là. Ça doit venir, en fait, de Higher-Up, genre que les personnes qui ont vendu les droits ont vendu les droits à une autre instance, à l'autre place.
Ouais,
que
là,
eux autres, ça leur bénéfice de vendre les droits à deux places différentes.
Il y a sûrement des restrictions de langue, des places qu'il faut qu'ils payent.
Ah boy, oui, surtout au Canada, on est un petit peu à cheval là-dessus. Ouais. Comme l'a dit Pierre-Elliott Trudeau, ça en a un autre que le HD, ça n'aurait pas aidé ben
non,
ça,
On
parlait de Robert Davi tantôt comme étant un acteur qu'on voit beaucoup moins depuis que le 4K est sorti. Un petit peu comme Tommy Lee Jones et tellement d'autres. Mais sinon, toi, tu as trouvé Blast.
Oui, Blast, c'est un film de Albert Pion.
Albert Pion!
Ah ouais, le master.
Déjà,
ouais.
Le Ed Wood des années 90, son surnom dans l'industrie.
Oui, puis souvent, je te dis comme... Ben, j'ai tout vu ces films, me semble. Ben non, tu trouves de quoi comme Blast. Ça met en vedette Lyndon Ashby, qui jouait Johnny Cage dans Mortal Kombat. Il était aussi dans la série Resident Evil. Il jouait un cowboy qui meurt dans le 3. C'est ça, je sais. C'est juste ça, je sais de lui, comme de top of my head.
Ça veut dire qu'il a touché à Mila Jovovich, qui a déjà touché à Luc Besson.
Ouais.
Ça, pense à ça. On est à 2 degrés de Luc Besson.
2 degrés de Luc Besson?
Ouais. Puis pour... Paul W.S. Anderson touche à Mila Jovovich qui a réalisé Mortal Kombat. Et
Mila Jovovich a réalisé Mortal
Kombat? Non, Paul Anderson. C'est le mari de Mila Jovovich.
Voilà.
Après, Luc Besson est allé à Paul Anderson.
De réalisateur en réalisateur.
Ouais. Mm-hmm. C'était lui, il n'a pas violé des femmes. Genre. Fait que, c'est juste des mauvais films.
Googlez pas Luc Besson vers ça. Vous voulez bien dormir.
Donc, Blast, ma vedette Lyndon Ashby, Rutger Hauer, le fameux Rutger. Puis, c'était une surprise. C'était un Die Hard, Sudden Death, où une équipe de natation se fait prendre otage par des terroristes allemands qui veulent de l'argent, mais dans le fond, ils vont tuer tout le monde parce qu'ils font ça dans chaque pays qu'ils vont.
Fuck la natation.
Exactement.
Puis, ils veulent même juste de l'argent pour pouvoir s'en aller dans l'autre pays.
Exact.
Pour recommencer à tuer du monde.
Exact. Puis c'est ça que Rutger nous annonce. Rutger joue un Amérindien. il est bronzé à fond. Il a deux belles tresses. Moi, je me disais au début qu'il était juste bronzé, tu sais.
Mais après ça, tu te rends compte que c'est les années 90 puis que ça se peut très bien que ce soit un Amérindien.
C'est ça. Puis là, je me suis aussi dit que c'était sûrement pas le choix du studio ou du réalisateur. C'est sûrement Rutger qui a dit... Moi, je veux jouer un Amérindien.
Ouais, c'est ça. Je suis assez chromé, là.
Ouais. Il joue un genre de hacker professionnel. Il connaît au bout les terroristes.
C'est personnel entre lui et
oui, c'est ça. Le terroriste, il a...
C'est qui le méchant?
Le méchant, c'est... il faut que je check son nom. Une seconde. C'est Andrew DeVoff. Puis Andrew DeVoff, il a une face fuckée et tout, comme Tommy Lee Jones.
Voilà, bon.
Il joue dans plein de films. Là.
Il jouait dans Lust, me semble.
Ça se peut.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était
méchant. Je peux pas voir à ce moment-là. Il y a trop de films. Il joue dans vraiment plein
d'affaires. Oui,
il
joue dans
Est-ce qu'il y a des femmes kidnappées dans ce film?
C'est ça. L'équipe de natation, c'était l'équipe féminine. c'est juste ça. Il n'y a pas d'autres gens dans le film. Il y a juste l'équipe dans une piscine publique qu'ils ont louée. les locations sont vraiment pas. C'est tout le temps le même location, sans arrêt, les mêmes tunnels que tu vois. Les terroristes tuent absolument toute la crew. Puis se déguisent dans le crew, mais pour aucune raison, parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'être déguisés.
Ben non, ils font si tuer tout le monde.
Fait qu'ils ont tous des button-up shirts bleus, là, écrit staff dessus. Là. C'est fucking laid. Il n'y a personne qui a de la personnalité. Genre.
Fait que tu nous le conseilles fortement.
Oui, surtout pour la fin. c'est vraiment dur à écouter. L'action est atroce.
Albert Pion, il y a un style, ça, c'est sûr.
Ah, c'est vraiment pourri. Les coups, ça semble qu'il n'y a eu aucune chorégraphie, puis qu'il a juste dit « OK, go, battez-vous ». Mais ça donne pas ce qui est arrivé dans Day Live avec John Carpenter.
Non, ça,
là, c'est vraiment comme de la pure merde. Là. Ils ont dit qu'il y a plein de coups ratés. C'est le monde, je pense, qui se font mal en même temps. Mais Rutger Hauer sauve le film à la fin.
Il arrive en chaise roulante.
Ouais, chaise roulante, estime, il explose.
Ça, oh my god!
C'est quoi ça? Chaise roulante explose?
Je veux pas trop spoiler. Là, ah, je voulais spoiler à vous autres tantôt, mais comme.
Allez voir.
Allez voir la fin du film. C'est sur Amazon Prime.
Si vous avez le bon VPN, j'ai entendu.
Ben, je pense que celui-là, il est sur Canada, mais je suis pas certain.
OK.
Je me rappelle plus si j'avais mon VPN on. Mais si je peux vous donner d'autres conseils et tout par rapport à des VPN, c'est que si vous utilisez Netflix, si vous êtes capable de vous connecter à Netflix Irlande, là-bas, il n'y a pas Hulu. Donc, tout leur film va directement sur Netflix. Ils ont vraiment une très grande sélection de films.
Oh.
Mais malheureusement, c'est dur de se connecter à Netflix sur Irlande.
Ben oui, vu que tout le monde veut aller là.
Ouais, c'est ça.
Mais ça presti, Jérémy, des petits trucs d'informatique 2.0 là-dessus. Bon, bon. Moi, j'ai vu quelque chose. Hein. On a fait un marathon au musée. Mm-hmm. On a fait un marathon. Le Dogoton, que ça s'appelle. Tous les épisodes de Dans une galaxie près de chez vous, suivi des deux longs métrages. Mm-hmm. On a même écouté le Making of et l'extra du DVD. Je pense, pour ma part, ça faisait 29h30 tout au total.
Ouais.
Moi, je pense que c'était pas mal mon dernier marathon de nuit blanche. Je suis plus capable.
Ben, 29h en ligne.
Oh, wow. La patate me débattait d'une manière que c'était vraiment capoté. Le prochain qu'on va faire, on va sûrement commencer à en faire chaque samedi avec Pascal. Ça va être 12h, genre de midi à minuit. Si vous êtes là, peut-être genre de 2h à 14h, de 14h à 2h. On verra, là, mais c'est ça, c'est un petit peu fini pour moi. Mais ça ne veut absolument pas dire que Dans une galaxie près de chez vous, c'était pas de qualité. C'était la première fois que je voyais autre chose que, mettons, le graphique poche du vaisseau. Moi, ça m'a tout le temps turné off depuis le début, mais là, j'ai trouvé que ça faisait partie de la joke. Là. Surtout dans le film, quand ils se font attaquer, puis il y en a un qui arrive avec un ouvre-bois pour leur ouvrir le top. Là. Ah, ça apprécie. Mais bon, ouais, ça a été... j'en reviens pas comment que c'est bien écrit, cette affaire-là.
C'est très bien écrit.
Un petit chef-d'œuvre que j'avais jamais vu. Là. Même les adaptations cinématographiques de la série, je trouve que c'est dans les meilleures adaptations de série que j'ai vues transposées en film. Ils ont juste bien développé sur les concepts qui avaient été établis dans la série. Puis... c'est ça, je trouve qu'ils ont réussi à rester pertinents, genre d'un bout à l'autre de l'exercice. Là. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il y a plein de fois que j'ai ri haut et fort là, à un moment donné. Je dirais qu'à partir de la deuxième saison, beaucoup plus. Par contre, là, la première, Falbo, il me tapait beaucoup sur les nerfs. Je sais pas pourquoi qu'il suractait autant tout, puis sa personnalité d'aimer le sirop, le lait au chocolat, c'est comme plus dit que réellement vécu, j'ai l'impression. Là. C'est pas comme Bob avec ses pogos. Mais j'ai bien aimé la phrase à un moment donné, Bob, il parle avec Mélanie Ménard, là, j'ai oublié son nom. Là.
Pétrolia,
ouais, voilà. Puis là, elle dit, ouais, ben là, il veut nous vendre comme esclave, fait qu'on va tomber malade, fait comme ça, on pourra pas se faire vendre comme esclave. Ben oui, il y a personne qui va acheter d'esclaves malades. Puis là, Bob, il fait, bon, je sais pas, je n'ai jamais bien magasiné. J'ai tellement trouvé ça drôle. Surtout que Bob, c'est Didier Lucien, c'est quelqu'un qui, mettons, là, 500 ans, aurait pu... prétendre à ce titre que personne... Même pas 500, ça n'a pas de crise de bon. On n'est pas fort. Ça avance là. Ouais. Mais oui, en tout cas, au final, les personnages étaient bien caricaturés. C'était super cool. Le fait que Brad... T'sais, souvent, c'est lui qui sauve tout le monde, mais personne le sait. Puis ça, c'est drôle. T'sais, je trouve ça très drôle. Je dirais le seul... la seule joke leitmotiv qui revient souvent que j'ai trouvé un peu poche, moi, c'est quand ils disent, mettons, c'est une alerte orange couleur J-Proc, je trouve que ça revenait trop pour rien. Là. Mais tu sais, quand que le capitaine qui déforme les syllabes et les voyelles pour rien du gauze, là, ça fait vraiment Charles Petnoud. C'est très, très drôle. Là, ça. Je sais pas comment que... En tout cas, bravo à ceux qui ont fait ça et ceux qui ne l'ont jamais vu. Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube. Et d'ailleurs, quand on a fait le marathon, on l'a diffusé en entier et Claude Gauthier il est venu parler avec nous autres un petit peu. Ça a été une très belle affaire, ça. Il était supposé venir faire un tour, mais finalement, il n'est pas venu. Mais merci pareil d'avoir répondu à des questions. Le pas celui qui a écrit, Claude Legault.
Legault, oui.
Claude Legault, hey, voyons, désolé. Ben oui, il s'appelait Claude Legros sur Twitch. J'ai trouvé ça très, très satisfaisant. Fait qu'en tout cas, moi, ça a été ma grosse aventure. Là. Sinon, j'ai d'autres affaires, mais je vais attendre après toi, Florence.
Moi, ma grosse aventure, ça a été Tchernobyl. Parce que c'est ça, je vous parlais dans un podcast précédent que j'ai vécu un deuil face à Game of Thrones. Je fais partie de ceux qui ont été amèrement déçus par la fin de la série. Et puis, après ça, est venu le sevrage de... c'est une émission que ça fait 8 ans que j'écoute, puis là, j'ai plus d'émission. Fait ouais. Que faire? Puis quelqu'un m'a dit Tchernobyl. Fait que je suis allée un peu à reculons avec Tchernobyl en disant ah, « ça va être tough, ça va être trop difficile, machin ». Oui, c'est difficile, mais c'est très bien écrit, c'est très bien réalisé. Et les acteurs sont magnifiques là-dedans. C'est rare qu'une télésérie m'accroche autant que Tchernobyl et me reste aussi longtemps que Tchernobyl. Et
c'était pas trop long non plus aussi. Là. C'était 5 épisodes. Là. Ouais, c'est ça.
C'est juste 5 épisodes.
Là, mais,
exact. Mais
c'est presque un film de...
Ouais.
C'est presque un film de 13 heures,
effectivement. Ouais, c'est ça, c'est ça.
mais en fait, toute la recherche qui est allée dans Tchernobyl, toutes les explications qu'ils ont, je recommande et Tchernobyl et le podcast qui suit avec le réalisateur et avec le scénariste de Tchernobyl.
Les extras valent la peine.
Là. Les extras valent beaucoup la peine parce qu'ils nous expliquent en fait qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'ils ont découvert, qu'est-ce qui les a étonnés. Puis, c'est aussi des choses très, très étonnantes face à une tragédie qui aurait pu être évitée, mais en même temps, pas tant, parce qu'il y a plein d'éléments qui font en sorte que cette chose-là est arrivée.
Il y a une couple de... Ouais, c'est très bien écrit, là. C'est jamais spectaculaire, là. Ça garde comme la tragédie au niveau humain. Fait que j'ai l'impression que ça peut mieux prétendre à l'objectivité que d'autres affaires qui se vantent de raconter des événements réels. Là. Je trouvais ça très bon, moi aussi. Les mineurs là, qui décident de travailler tout nu parce que
Parce que ça faisait trop chaud.
Tu quelque chose contre ça, veux-tu aller pelleter, toi et nous autres, on travaille, tu sais, j'ai trouvé ça cool.
Là. Oui, puis de toute façon, c'est ça, il y a le danger. En fait, j'ai bien aimé qu'ils représentent la radioactivité comme un monstre qu'on ne voit pas. Puis, effectivement, la radioactivité est un monstre qu'on ne voit pas, que là-dedans, c'est toujours comme latent, c'est toujours... On le sait que c'est là, on le sait qu'on ne le voit pas, puis on le sait que les conséquences d'être proche de ce lieu-là vont arriver plus tard. Puis tout le monde le sait, et malgré nous, on essaye de dire « Mais non, mais allez-vous-en, sortez d'ici, quelque chose. » Puis en rétrospective, on fait juste comme si tout cet exercice-là de « Allez-vous-en » est futile, puisque même les personnes qui sont là, même eux autres intérieurement, se sont dit « Il faut que je m'en aille, mais j'ai une job à faire pour justement que les autres... » et pas à vivre ce que je vis, tu sais.
Ouais, un petit peu moins, effectivement. C'est weird aussi, moi, je savais pas, tu sais, l'épisode sur les animaux, là, qu'il faut qu'il aille tuer les animaux qui sont rendus radioactifs, parce que c'est comme contagieux, cette affaire-là. Tu peux amener du... Waouh, hein? Moi, en tout cas, je suis content que personne ici soit radioactif.
Oh!
As-tu vu ça, toi, Jérémy?
Non, pas encore, mais... C'est dans ma liste.
Ça vaut la peine. Là. Tu vas être fier de certains humains puis moins de d'autres.
Ouais.
Un petit rappel aux auditeurs aussi que la banane est le fruit et un des fruits les plus radioactifs au monde. Voilà, je laisse ça sur la table.
Ouais,
la banane qui a du potassium
store
plus de radioactivité. Okay. Donc, quand on en mange, on prend aussi une dose de radioactivité.
Ben, je suis sûr qu'il y a plein d'autres affaires. Comme...
Oui, plein d'autres affaires, mais la banane... Ouais,
Jérémy, il n'y a pas peur. Je vais aller manger mes bananes.
Moi, tout ce qui va me tuer bien plus tôt, ça me vraiment bien.
Oui, mais il faut vous en manger, s'il vous plaît, des bananes pour dépasser juste comme le seuil de radioactivité recommandé comme pour chirurgien dentaire.
Je pourrais avoir un régime de bananes dans ma chambre.
Oui, puis ça ne changerait rien. Là. Non, 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 non.
Puis toi, on retourne à Jérémy.
Ah ben... Qu'est-ce que c'est d'autre j'ai vu? Ah ouais, j'ai écouté Between Worlds avec Nicolas Cage.
Ah, toi, tu l'aimes beaucoup, Nicolas Cage.
Ah, je m'ai fait un marathon de Nicolas Cage en fin de semaine. J'ai écouté les deux Ghost Rider, Between Worlds.
Les deux Ghost Rider.
C'était malade.
Fait que parle-moi de Between Worlds.
Between Worlds, là, ça me tente pas de checker l'info. Là. Mais...
Tu ce film comme David Lynch.
Je veux juste en parler. Ouais, la réalisatrice voulait un vibe de Twin Peaks. Ils ont même pris le même composer. Donc, ça sonne comme Twin Peaks.
Nice.
Puis c'est Nicolas Cage qui aide une femme que sa fille a un accident de motocyclette. Sa fille est à l'hôpital, puis la femme, elle demande de l'étrangler. Elle demande à Nicolas Cage de l'étrangler parce que quand elle est proche de mourir, elle peut communiquer avec les gens qui sont entre la vie et la mort.
Oh shit. Hein?
Donc, elle a un pouvoir. Puis,
Est-ce qu'elle l'a découvert?
elle a eu un accident quand elle était kid.
OK.
Puis là, de là, elle sait qu'elle peut communiquer avec les morts.
Confirmé ça.
Ouais. Puis là, elle essaie de sauver sa fille qui est entre la vie et la mort. Donc, elle veut aller comme la réanimer, disait, de ne pas aller vers la lumière, de revenir.
Puis elle sait que c'est pas comme de la schizophrénie, là.
Ouais, c'est ça. Ça a déjà marché quand même passé. Bon. Mais Nicolas Cage tombe là-dessus en rentrant dans une salle de bain, puis il voit un gars en train d'étrangler la fille, puis il pense que le gars est en train de l'abuser.
Ouais, je comprends.
Fait que Nicolas Cage, il casse la gueule du dude. Puis comme, non, pourquoi tu fais ça? Puis
ben...
il donne une ride, puis il explique, puis après ça, c'est à son tour à lui de l'étrangler. T'sais.
Puis il se fait casser la gueule par quelqu'un.
Non, oh. Parce que c'est Nicolas Cage. C'est juste après Mandy. Là. Il a ses cheveux longs, il a la barbe, il a l'air d'un redneck. Il est pas mal cool dans ce film-là. Il porte un t-shirt de crocodile. C'est un... Je m'en rappelle plus quoi qu'il fait. C'est un trucker. Puis lui, il a perdu sa femme. Sa femme est décédée assez brûlée elle-même sur son couch en fumant une cigarette.
Oh.
Puis il y avait une petite fille aussi, puis elle est morte.
Elle était en dessous du couch.
Ouais, c'est ça. Il a perdu sa famille. C'est très tragique. Mais là, qu'est-ce qui arrive dans le film, c'est que la fille... de sa nouvelle copine, la femme qu'il a rencontrée qui devient sa copine.
Est devenue chum avec sa fille au ciel.
Non, c'est la fille, en essayant d'aider la fille, ben, de ramener sa fille en vie, ben, pendant qu'elle était entre la vie et la mort, on fait un petit Insidious.
Ouh.
Où que, y a un autre esprit qui rentre dans son corps.
Oh non!
Puis l'autre esprit, c'est la femme morte de Nicolas Cage.
Oh non!
Oh. Ils vont pouvoir leur fourrer.
Oui, c'est exactement ça. Fait que le reste du film, c'est Nicolas Cage qui sort avec la mère qui...
ouais,
c'est excellent. La mère, c'est Franca Potente là, qui joue Run Ruler Run. Puis je l'aimais bien dans le rôle parce qu'elle comme, a pris du poids. Là. Puis là, elle avait l'air d'une vraie personne. Comme. C'est comme Nicolas Cage puis elle, ils ont l'air des vrais gens. Genre.
Ouais,
c'est rare que tu vois ça dans les films.
Ouais,
effectivement. C'est un film avec quand même un côté romantique dedans. Puis des séductions, mais là, c'est comme les deux ont l'air des personnes normales, genre, ils ont des tatous, ils sont pas en shape, puis ils boivent de la bière. Comme, je suis comme, ah ben, c'est cool à voir, tu sais. Puis Nicolas Cage, dedans, il est assez charmant, je trouve, il est assez drôle.
Non, t'as retrouvé ton Nicolas Cage.
Ouais, on dirait qu'il joue super naturel.
As-tu comme, vu le petit sourire qu'il y a quand
oh,
il
oui,
en parle?
Il est super fun dans le film.
Il y a des étoiles dans les yeux.
Il est genre, c'est quoi le film de David Lynch, là? Avec Nicolas Cage et tout? Fuck.
Boy, on est supposé savoir.
Ben oui. Tu sais, avec la fille de Jurassic Park et tout, pourquoi j'aurais pas dit non? Vous savez de quel film je parle.
Ok, oh, ouais, avance.
C'est un peu comme dans cette vibe-là du film. Là. Il y a clairement du fun, il y a plein de bouts qui rient, mais on dirait que c'est un rire naturel. C'est pas son rire de maniaque là, qui est exagéré. Là.
Ouais, ouais, ouais.
Il fait quand même des moments exagérés excellents. Là. mais le reste du film, c'est lui qui peut coucher avec un adolescente de 18 ans, puis. Il y a comme, c'est un peu comme un midlife crisis qu'il y a.
Ouais, ouais,
mais excepté,
ouais.
Là, c'est comme. Tu te sens pas trop mal parce que lui, son caractère, c'est qu'il est une bonne personne. Puis lui, il veut vraiment pas coucher avec la fille, mais là, c'est vraiment sa femme qui est dedans, puis elle le manipule. Puis lui, il voit sa femme quand il couche avec, tu sais.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que c'est pas à propos d'un homme qui couche avec une fille jeune. C'est
mais,
plus...
mais là, il y a quelqu'un qui est mort dans le processus. C'est comment ça finit?
Ouais, c'est ça. Fait que la fille, la jeune, elle est comme pognée quelque part dans l'autre monde, I guess. Puis. Fait que là, le film vient à ce que la mère et des amis essaient de ramener la fille. Puis donc, s'ils ramènent la fille, la femme de Nicolas Cage va mourir. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce que la femme
la
de Nicolas...
Est
non, mais la femme de Nicolas Cage était fucking folle. Puis la raison qu'elle est morte, c'est qu'elle a tué sa fille.
OK.
OK, elle est super méchante. Là.
Fun ouais, times.
Elle dit souvent à Nicolas Cage comme... Si tu m'as laissé, moi, je suis pas bonne seule, genre. Je suis pas bonne seule. Puis là, comme, tu sais, j'étais pas bonne seule, tu m'écoutais pas, genre, notre fille est morte, comme, je l'ai tuée, genre, tu sais. Puis après ça, je me suis brûlé, comme. Puis quand Nicolas Cage apprend ça, il est comme, il part fou, là. Il part vraiment fou. Il pleure, puis il capote, puis après, suicide.
Ça, ben oui.
Puis ça va vraiment cool. Je suis pas mal certain que Nicolas Cage est Ghost Rider toute sa vie dans tous les films. Sûrement en vrai, c'est comme. Parce que, à la fin, quand la façon qu'il se suicide, c'est qu'il pogne du gaz. Il se pour le gaz dessus, puis il se part en feu. Mais il se part en feu, là. Puis ça, il fait rien, là. Il est en feu, il est cool, il fume une cigarette. Il a l'air d'être chill en
ça
tabarnak.
Ça fait du vieil, genre. Ouais. Oh boy.
Ce moment-là, c'est vraiment excellent.
Il a accompli son destin.
Ouais.
C'est maintenant chose faite.
Comme dans Crank 2 aussi.
Oui, c'est ça.
Il meurt.
C'est comme ça. C'est exactement ça.
C'est Crank 3 avec Nicolas Cage.
Ouais. Puis les Ghost Riders, c'était les doutes de Crank qui l'ont fait, le deuxième.
Et là,
là. Full circle. Ouais, c'était super le fun. C'est quand même assez entertaining. C'est pas excellent, là, mais c'est entertaining. Ça dure pas longtemps. C'est différent.
Ça, j'aime ça, moi, quand ça dure pas 2h15. Là,
yeah, puis même avec les spoilers, ça vaut la peine d'écouter parce que c'est
Est-ce
vraiment
qu'il y a
weird.
Un chien?
Y a-t-il un chien?
Comment?
On peut pas
signer
un chien.
Ah oui, Boomer, comment?
Je m'en rappelle pas.
Ah, c'est correct.
Mais il y a une moto, puis il répare une moto. Puis il y a un t-shirt de crocodile, comme je dis, ouais. Je veux son t-shirt.
C'est vrai, tu l'avais dit. Ben, sinon, c'est tout là-dessus, Between Worlds.
Ouais, écoutez ça.
Moi, je veux parler du fait qu'on a commencé à écouter souvent des films au musée. On diffuse ça sur Twitch. Et ce qui pogne à date, c'est les films de David de Coteau. On est tombé sur des affaires, ça s'appelait Cougar's Cult.
Ah ben.
Et c'est c'était comme trois madames dans le De Coteau House. Ouais. Moi, j'appelle ça le De Coteau House parce que c'est la maison que David De Coteau s'est acheté et il fait des films là-dedans depuis belle lurette.
On met avec des madames.
Ben non, effectivement, il y a plus souvent des jeunes et faibles qu'on peut voir le mamelon un petit peu n'importe où. Ce qui n'est pas le cas des mamelons de madame. Hein, ça choque en esti. Et donc, dans Cougar's Cult, les madames, j'ai réalisé que j'aurais peut-être dû le préparer avant, mais je veux vous montrer. Fait que peut-être que tu vas avoir un petit bout à couper ici, mon Jérémy. Mais sinon, Cougar's Cult, c'est un film de 2012. Fait que l'extrait que je vais vous montrer, là, ça vient de 2012. Ouais, j'aurais vraiment dû le préparer avant. Cougar's Cult. Là, là, là.
Fait que toi, Florence, qu'est-ce que d'autre t'as vu?
Mais écoute, moi j'ai vu Godzilla, King of the Monsters.
Ah, c'était-tu bon?
Moins bon que le premier.
Ah, non, ça se peut pas.
Ben, je veux dire, la réalisation de Gareth Edwards, je l'adore.
OK.
Fait que le gigantisme des monstres du premier n'est pas nécessairement retrouvé dans le deuxième, mais le divertissement est vraiment là, par exemple, parce que autant que le premier pouvait être long, autant le deuxième est comme, tu sais pas où donner de la tête. Puis, j'aime ça, moi, des gros monstres qui se donnent des tapes. Puis, là-dedans, c'est que des gros monstres qui se donnent des tapes. Fait que on a comme... Ben, l'histoire, en gros, c'est... dans le premier Godzilla, on retrouve une famille qui a perdu l'un des leurs.
Ouais.
Et la famille, il y a la mère, le père et la jeune fille jouée par Millie Bobby Brown. Et la mère est jouée par Vera Farmiga. Puis, Vera décide de réveiller tous les monstres pour punir l'humanité. Because of reason, en fait, pour faire un gros reset sur l'humanité, puis recommencer une humanité saine et pure à zéro. Et il y a Charles Dance aussi qui l'accompagne dans cette affaire-là. Et finalement, ils vont voir comme... Ils vont réveiller Rodan, ils vont réveiller Mothra, ils vont réveiller Ghidorah.
Ah ouais, hein, t'as toute la collection de gros monstres.
Ah oui, c'est toute la panoplie, là, c'est attraper les tous. Là. Puis finalement, ils réveillent... Ben, il y a juste Godzilla qui flotte dans l'océan, qui n'ont pas réveillé.
Ouais.
Mais Godzilla n'aime pas ça. Fait que, il devient très, très territorial, puis il commence à comme pas aimer que d'autres monstres soient sur son turf.
Ouais.
Fait qu'il s'en va voir Ghidorah, puis il va y péter la gueule à plusieurs reprises. Mais Godzilla aussi a un arc narratif. C'est qu'il faut qu'il se buffe un peu pour aller tuer Ghidorah. Et comment il se buffe, c'est nos chers, nous-mêmes, en tant qu'humains, on décide de lui crisser une ogive nucléaire dans la gueule. Puis c'est là qu'il devient level 9000. Puis
il
s'en va comme...
Il absorbe la radiation, lui.
Ah oui, vraiment, là. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ce film. J'étais allé le voir deux fois au cinéma.
Deux fois?
Deux fois.
Fait que t'as du rumble de gros monstres en masse.
Ah, vraiment, j'ai eu ma dose de gros monstres pendant
souvent,
un bon
souvent,
deux
c'est
semaines.
Ça que les gens critiquent les Godzilla pour, là, que... Il y a trop de drama humain, puis il manque de gros de batailles de monstres.
Ben, le drama humain de cela, pour moi, c'était vraiment un à côté, là, parce que je veux dire, je me crissais un peu du drama humain, mais je veux dire, c'était pas manié de main de maître non plus. Fait que c'était pas quelque chose qui était inséré, dont il fallait que je porte attention à. Là. Ouais. C'était juste là pour promouvoir l'action entre deux bastons de monstres. Puis j'ai quand même bien aimé ce petit drame-là, parce qu'on voit quand même le père qui essaye de reconnecter avec son enfant, avec sa femme, puis les deux ont des trucs pas résolus ensemble, fait que j'aime bien qu'ils les résolvent. Mais aussi toute l'équipe d'autres humains qui font des gags de mon oncle, ça, j'ai apprécié à 110%. Fait que j'aime bien voir des blagues, des dad jokes dans mes films.
Dans voilà. Des films de gros monstres qui se bâchent.
Oui, tout à fait.
Ça fait plusieurs personnes qui me conseillent d'aller le voir.
Ouais, je voulais le voir, mais...
Sinon...
les Japonais sont tellement bons.
Ah oui, non, mais c'est sûr.
Je vais attendre qu'ils sortent, parce que le premier, le 2014, ça m'avait... J'étais tellement triste, j'ai tellement pas aimé ça.
Il y avait des très bons plans, par contre, dedans.
Oui, des cool plans, puis Bryan Cranston, il est excellent, mais dès qu'il meurt, le film, il tombe.
Ouais, ça devient autre chose, ça, c'est sûr. Fait que là-dessus, j'ai trouvé mon extrait de Cougar's Club. C'est Cougar's Cult, en fait. C'est des madames qui mangent des jeunes hommes.
Oh.
On va lui mettre un petit peu de volume. On va sûrement y revenir quelques fois. Là, il y a un rituel. Ils ont mis le kid en bédaine.
Tabarnouche.
Non, pas encore. C'est tout le temps la même affaire, hein, des gars qui se touchent sur son lit.
Checker bien ça.
Moi, ça me fait juste changement des filles qui se touchent sur des lits.
Oui,
fait que...
mais je veux dire, un de ses films, c'était ça pendant une heure et demie. Là.
Ouais, ouais.
C'était excellent.
Ça. Checker bien ça. Là.
Oh my god! C'est bon!
C'était comme ça l'explosion dans Blast.
Ah ouais, hein? Hey, mais pas de joke, wow. Là. Il l'a fait, là. C'est vraiment comme. Faut le voir, Cougar's Cult. Les madames, en fait, sont en train de faire un rituel parce que là, ils ont les voix déformées parce que c'est des cougars qui vont manger. Tu sais. Puis là, elle se transforme en cougar dans une explosion de CGI cheap et ça devient. C'est un still, là. C'est.
Ouais.
C'est une image...
C'est des built-in effects de whatever software qui est utilisé, puis...
C'est malade.
C'est fait au paint. Ouais. On dirait que l'oreille à gauche...
Non, mais c'est mal détouré. Il y a un fond qui est brûlé. On dirait qu'ils ont essayé d'enlever le blanc, mais tout ce que ça a fait, c'est que ça a rendu le blanc trop crisp, genre. Puis déjà là, le cougar avait l'air d'être pixelisé, fait que ils l'ont comme juste... Ils ont juste mis un autre filtre de photos par-dessus, genre, pour essayer que ça enlève la pixelisation, mais genre, bien essayer des coteaux. Mais je te spot, là.
Ça nous a vraiment jeté à terre. C'est un des bons aussi qu'on a vu, celui-là, parce que la série des 13-13 de David de Coteau, c'est tous des films d'horreur, c'est très guillemets, enregistrés dans le Dakota House avec un minimum de...
D'effort.
c'est vraiment comme... C'est un réalisateur à découvrir, David de Coteau. C'est assez particulier.
Mm-hmm. Je veux écouter tous ces films. Là. Il va falloir
comment?
Je veux écouter tous ces films.
Tu veux, hein?
Moi, je trouvais ça fucking drôle.
Ben, on s'en fait une fois de temps en temps. On peut s'en faire un juste après. Là. Il est 9h. On peut
Twitcher. Moi, je vais m'en aller après.
Oh non, mais là...
Ouais,
il veut pas. Hein.
Non, il a pas l'air de vouloir.
Ben, ouais, il est difficile, Jérémy. Il est vraiment farouche. Ça apprécie. Ben moi, c'est ça. Là, je vous conseille du Dakota. On en diffuse souvent les mercredis sur Douteux TV. Je vais sûrement en écouter un après avec Florence, d'ailleurs.
Pour vrai?
Ben, toi, t'es pas mal commode.
Ben, peut-être un peu. Là.
On verra bien.
Jour de semaine.
Ben, moi, j'ai fini là-dessus sur David Dakota.
Moi, j'ai encore trois petites affaires à dire face aux films que j'ai vus et aux films que je recommande. Bon, une des affaires que j'ai vues, c'est le dernier Jim Jarmusch.
Ah oui, The Dead Don't Die.
The Dead Don't Die. Puis, je recommande cette chose, mais quand ça va sortir sur Netflix. Où, parce que c'est un bon film, mais c'est clairement pas pour tout le monde. Puis, ce genre de film-là, on peut réellement pas savoir si on est fait pour sauf si on le regarde. Fait que, tu sais, c'est à savoir si on va trouver ça long ou est-ce qu'on va aimer ça. Ça dépend toujours.
Fait mais que, dans quel sens tu veux dire? Tu le comparerais à quoi, mettons?
Ça ressemble vraiment beaucoup à des films de série B, mais dans la vague des années 60, de 60 à 80, qui se passait dans les petits villages aux États-Unis et okay. Qui parlait d'invasion de zombies. Ça fait qu'on voit les personnages, genre les shérifs, tous les habitants d'un petit village normaux, le gars qui gère les bandes dessinées et des choses comme ça.
Ouais, ouais.
Puis on voit les interactions, mais c'est tout écrit avec un humour très, très présent. Puis un humour qui est comme pas nécessairement accessible non plus. C'est de l'humour sur des habitudes de vie.
Okay.
Puis c'est aussi comme les mêmes questions redondantes, les mêmes, tu sais, la petite vie plate et ordinaire, puis qui est comme tournée au ridicule, que j'adore. Fait que pour moi, ça a été un must absolument, mais pour certaines personnes, je sais que ça n'a...
Ben, ça se dit pour tout. Hein? Même le bacon, il y a du monde qui aime pas ça.
Inadmissible.
Ouais. Ouais, moi, j'ai réécouté Gozu de Takashi Miike l'autre jour.
Oh my God, oui.
Ça, c'est pas pour tout le monde.
Ouais, non, OK.
Mais moi, je trouve que c'est amazing.
De quoi, ça?
Takashi Miike. De toute façon, le réalisateur...
C'est probablement le réalisateur là, avec David Lynch, mettons, le plus pas fait pour tout le monde. Là. C'est une petite fuckée. Puis il fait tout le temps comme quatre films pas bons avant d'en faire un bon, là. Là, faut que tu tombes sur la bonne année, mettons. Là, ouais, oui. C'est ça. Tu disais que tu avais deux, trois affaires.
Oui, l'autre, c'est je suis allée voir Men in Black International.
Oui,
j'ai osé. Mais c'était dans un downtime de workout, puis je pense que c'est le meilleur moment pour y aller quand tu as encore ces endorphines, puis que tu commences à être comme un petit peu slow. Là. Voir des belles personnes sur un écran constamment, là, c'est vraiment le fun. Fait que Tessa Thompson puis Chris Hemsworth font vraiment une belle équipe. C'est un film un peu convenu. Je veux dire, on sait exactement là où ça s'en va. On sait c'est quoi les plot twists puis des choses comme ça. Mais il n'y a aucune prétention dans ce film-là. Puis le film ne te vend pas autre chose que ce qui te vend présentement dans les bandes-annonces. Fait que pour moi, c'est un win, ça
c'est
aussi.
C'est un bon nouveau, genre, parce que tu as vu les premiers Men in Black. C'est quand même une franchise intéressante.
Ben, ça diffère un peu des premiers Men in Black, mais dans le sens où je pense que dans notre monde, on est rendu ailleurs, puis ça suit bien la trame de ce qu'on voit en ce moment. Puis, une dernière petite mention de film. Prochainement sortira le film Midsommar de Ari Aster et je capote un peu, je veux voir ce film.
OK.
C'est un film d'horreur un peu low-key qui va se passer en Suède pendant un festival de la mi-été. Puis, ça a l'air creepy.
C'est comme un Wicker Man, puis... Mais moi, je m'attends à être déçu parce que tout le monde en parle trop comme que c'est super grave.
Ah, mais
grave.
Mais comme qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment traumatisant. Okay, puis à tous les films, je pense, qui ont dit ça, j'ai tout le temps été déçu après parce que c'est comme.
Ah, moi, j'ai pas entendu.
Il faut tout le temps que j'attends. Comme Hereditary, c'était la même affaire, là, le monde disait.
Moi, je suis juste pas allé voir les reviews. J'ai juste entendu comme ah, c'est vraiment bon. Puis j'arrête de lire. Okay. Puis je fais comme OK, c'est bon. Moi, je vais y aller.
C'est un très bon truc, ça. Ça permet de garder la petite innocence que Jérémy a perdue.
Oh. Ouais. So sad.
OK. Ouais. Oh, je n'ai plus de ça.
En parlant de Men in Black, Ed Solomon, qui est le writer de Men in Black, aussi de Bill and Ted, on a parlé ce week-end sur Twitter, qui disait que quand il écrit le scénario, Will Smith avait signé déjà pour le film. Mais ensuite, ils ont présenté le scénario à Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones venait de gagner un Oscar. Ils sont comme, à Star Tommy Lee Jones, il faudrait qu'il soit l'acteur principal. Donc, son personnage allait être l'acteur principal. Puis le writer, il n'était pas d'accord avec ça. On avait besoin d'un personnage qui ne connaît pas l'univers, qui nous présente l'univers.
Ben OK, ben oui, je comprends.
Puis Tommy Lee Jones a lu le script. Puis il a dit au writer, il faut que tu te décides. C'est une comédie que tu veux faire ou c'est un film de science-fiction, asshole?
Wow!
Ben, ça peut
puis comme, je sais pas pourquoi il m'appelait asshole. Puis
ben le scénariste a juste dit oui. Puis c'est ça.
Ben oui, c'est ça.
Ben tu sais, c'est comme tu peux faire les deux.
Oui, comme Doctor Who, puis Shanker's Guide to Galaxy. Plein de trucs de science-fiction comédie existaient à cette époque.
C'est pas la première affaire que je lis sur Tommy Lee Jones qui avait une attitude.
Oui, c'est ça. Donc, ils ont viré le writer. À partir de là pour rechanger le script. Mais là, Will Smith, lui, il est arrivé, puis il lit le script, puis il est comme, qu'est-ce qui t'est arrivé au script? Il y a où tout l'humour?
Ben.
Le film avait besoin de l'humour pour fonctionner.
Ben oui.
Parce que la science-fiction n'est pas assez sérieuse.
Ben oui,
mais
ben
oui, mais tu sais, c'est...
Ben oui,
tu sais. Ben là, ils ont réengagé le writer. Il s'est fait virer deux autres fois.
Ah,
et réengagé.
Mais tu sais, c'est excellent. Surtout...
Attends un peu. Là, toutes les fois que tu travailles avec le gars qui t'a appelé de Assault puis qui était sûrement content de plus avoir à travailler avec toi, ben là, ils sont revenus pour le 2.
Ben, puis l'un, c'est ça. In the end, c'est que, comme il a été réengagé deux autres fois, le writer, pour remettre le script drôle. Puis à la fin, supposément, Tommy Jones, quand il était sur le set, il a commencé à comprendre pourquoi ça avait besoin d'une comédie.
Mais oui, mais tu sais, c'est comme des fois, il y a des affaires qu'il faut pousser le ridicule. Parce que je veux dire, des extraterrestres, une clique d'hommes en noir qui s'en va arrêter des extraterrestres qui vivent sur Terre depuis longtemps. Tu sais, ça va être tough de rendre ça sérieux. Oui,
ouais, puis juste leur affaire pour faire oublier la mémoire, ben comme tu veux, c'est tellement gros comme le bras.
Ça, ça crie Ghostbusters,
Puis c'est, en tout cas, non.
En tout cas, Tommy Lee...
Ben, tant mieux si Tommy a viré de bord un moment
donné. Oui, on aime bien qu'il ait compris.
Mais voilà.
Puis il a embarqué à 110%.
Moi, j'ai une nasée pour cette semaine.
Ouais.
Bien content qu'on aille recommencer ça, mon Jérémy Damour, faire des chatouilles.
Bon, il se touche, là.
C'est doux.
C'est ça. Hey, salut tout le monde! Merci beaucoup d'avoir écouté Critique Exquise. C'était Critique en vrac. Merci Florence.
Hey, de rien.
On peut te suivre sur Facebook.
Oui.
70% une fois de temps en temps. Douteux.org représente.
Puis tu vas nous faire plein de critiques de Fantasia.
Ah oui.
Ben oui, c'est vrai. Là, on va suivre ça sûrement sur le Facebook de Critique Exquise ou sur la page de Radio H2O. Merci Jérémy.
Ah, merci à vous autres.
Donne-toi donc une petite bine d'un côte. OK, une autre fois. Hey, moi, mon nom, c'est Tommy Godette et je vous invite à aller voir sur Spotify si vous voulez écouter notre émission, tous les podcasts qu'on produit ici au Musée de l'Absurde. Sinon, il y a de la merch disponible sur Production Podcasts.